Boris, Radio Aria 99.6, 99.6, votre radio transfrontalière, la radio qui vous fait du bien aux oreilles. Donc nous nous retrouvons aujourd'hui pour discuter autour d'un livre qui vient de sortir, Pratiques collectives, pratiques du collectif, qui sont en fait notamment les actes du colloque international qui a eu lieu en mars 2016 à Montpellier. Et donc en fait, c'est sous la direction d'Isabelle Félicie que nous avons le plaisir de recevoir sur les ondes de Radio Aria pour parler donc de ce livre, et avec nous en studio donc Fabio et Rebecca qui sont là pour débattre avec nous de ce sujet des pratiques collectives. Alors avant de commencer l'interview, je vais vous proposer d'écouter un morceau de musique et je vous dirai après qu'est-ce que c'est, mais je crois que vous connaissez.
Il est temps que je le confesse. À pied, à cheval et en voiture, avec des gros, des petits, des durs, je suis de ceux qui manifestent avec leur gueule de travers, leur fin de mois qui sonne clair. Les âmes trouvent tous les vices avec leur teint calamiteux, leur fin de mois qui sonne creux. Que l'on fait taire au nom des libertés dans l'air, une sorte d'amoraliste, le fossoyeur de nos affaires, le déroulé de l'arrière, le plus complet des défaitistes, l'empêcheur de tuer en rond, perdant avec satisfaction 20 ans de guerre colonialiste, la petite voix qui dit non. Une question, quand elle vient d'un parachutiste, en groupe, en ligue, en procession, depuis 200 générations, si j'ai souvent commis des fautes. Charonne à la nation, en ont vu défiler paroles, des pèlerines et des bâtons, sans jamais rater l'occasion de se faire casser la gueule. En groupe, en ligue, en procession, et puis tout seul à l'occasion, j'en ferai la preuve par quatre. S'il m'arrive, Marie-Jésus, d'en avoir vraiment plein le cul, je continuerai de me battre. On peut me dire sans rémission qu'en groupe, en ligue, en procession, on a l'intelligence bête. Je n'ai qu'une consolation, c'est qu'on peut être seul et con, et que dans ce cas on le reste.
Et oui, donc c'était En groupe, en ligue, en procession, une chanson de Jean Ferrat, mais qui est cette fois-ci interprétée par Kadour Haddadi, le fameux chanteur de HK et les Saltimbanques, dans l'album HK et les Déserteurs, où de nombreux titres de la chanson française sont repris avec une orchestration de musiciens soufis d'Alger. Voilà, donc bonjour Isabelle.
Bonjour.
Voilà, donc on est là pour parler d'un livre qui est sorti au mois d'octobre, je crois.
C'est ça, octobre dernier, oui. Mais sur lequel on a travaillé quand même depuis 2016 quasiment, hein. Parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure en introduction, ce sont les actes d'un colloque qui s'est tenu à l'université de Montpellier, l'université Paul Valéry de Montpellier en 2016.
Voilà, les 9, 10 et 11 mars.
Pour être précis.
Le lendemain du 8.
C'est vrai.
Je ne sais pas ce que c'est le 8 mars déjà, mais bon, ça devrait être toute l'année le 8 mars.
Le 8 mars, c'est tous les jours.
Voilà. Et donc, bonjour Fabio et Rebecca.
Bonjour.
Bonjour.
Voilà, donc vous allez nous accompagner pour cette émission, pour discuter avec Isabelle donc, de ce thème du collectif, puisque c'est quelque chose que vous connaissez bien tous les deux.
Oui, on a nos expériences avec le collectif, voilà. Et moi, personnellement, je suis aussi là pour apprendre et échanger comme personne intéressée par ce sujet.
Oui, en fait, on a vécu en communauté avec Rebecca et on a quelques expériences de fonctionnement et... Donc, de pratiques collectives. Aussi, petite connaissance sur les communs et les communaux et tout ce qui nous rapproche de la pratique
voilà,
collective.
Et Fabio, tu es un membre actif de l'association Ginkgo Mon Amour, dont on reparlera sur Radio Aria.
Voilà, et qui a un article dans le livre qu'on présente aujourd'hui.
Avec Sébastien Bonetti. Voilà donc Isabelle, pourquoi ce colloque a été. Pourquoi avez-vous voulu organiser ce colloque à Montpellier en 2016?
Alors, pourquoi est-ce qu'on veut organiser un colloque? Ben d'abord, parce que ça fait partie de notre travail d'enseignant-chercheur, tant qu'à faire. Et puis, sur le sujet, je suppose que la question porte...
Pourquoi sur ce sujet-là? Dans une période où on est très individualiste.
C'est vrai.
Alors, c'est du chacun pour soi, un petit peu, on a l'impression. Bon, il y a les Gilets jaunes qui ont contrebalancé un peu ça.
Ouais, on a devancé les Gilets jaunes, hein, sur le sujet, là, j'avoue. Alors, peut-être que... Disons, quand on est chercheur, eh bien, on doit faire de la recherche. On peut travailler tout seul, mais quand même, on est encouragé à travailler en équipe. Et puis, à le faire par affinité, souvent. Moi-même, j'étais arrivée avec un petit bagage, puisque j'avais fait une recherche sur une communauté italienne au Brésil, fin 19e, qui s'appelle la Cecilia, qui n'est pas reprise dans l'ouvrage ici, mais dont on pourra parler éventuellement. Et je trouvais intéressant qu'on se confronte à plusieurs sur ce sujet-là, à la fois dans l'espace, puisqu'il y a des personnes dont le texte est repris ici, qui viennent un peu de tous les continents, finalement. Il nous manque l'Australie, mais Rebecca, aujourd'hui, va heureusement compléter. Rebecca et Fabio, voilà. Et puis, je trouvais aussi intéressant l'idée... C'est un petit peu un défi dans le milieu universitaire de créer aussi un collectif qui a vécu le temps de l'organisation du colloque. Donc on a vraiment essayé aussi d'appliquer un petit peu ces règles du collectif pour l'organisation du colloque, ce qui était un peu compliqué dans la mesure où tout l'environnement extérieur n'était pas du tout, disons, sur les mêmes bases de fonctionnement collectives.
Parce que là, le thème est très libertaire. D'ailleurs, ça a été publié à l'atelier de création libertaire, le livre.
Oui, alors on peut en profiter pour dire quelque chose sur l'atelier de création libertaire. D'abord, je salue les copains qui s'en occupent. Et puis, ça me fait plaisir qu'on souligne leur nom. Regardez l'ouvrage. Enfin, à la radio, on ne peut pas tellement regarder, mais j'espère que vous l'aurez bientôt entre les mains.
D'ailleurs, vous pourrez le trouver à la librairie Virgule. Il y a des exemplaires qui ont été commandés. Une bonne librairie indépendante. Il faut soutenir les librairies indépendantes.
Oui, merci la librairie Virgule. Marc, je crois.
Marc Sandron, c'est ça.
Marc, c'est ça, voilà. J'ai déjà eu le contact avec lui. Super efficace. Et donc, je disais que je trouve l'ouvrage, franchement, d'abord un bel objet. Ils font du beau travail d'édition et ils ont un catalogue assez intéressant. Moi, je travaille avec eux, je suis un de leurs auteurs, enfin une de leurs autrices, on devrait dire, depuis quelques années. Et ils fêtent cette année leurs 40 ans. Ils ont tout un tas de d'ouvrages, effectivement, sur des thèmes libertaires, comme dit le titre, sur des sujets d'actualité, sur des sujets historiques. Parfois, ils font des traductions, etc. Donc, ça vaut vraiment le coup, je pense, de regarder un petit peu
leur catalogue,
qui est facilement en ligne. Ils ont une page Facebook, ils ont tout ce que vous voulez.
Ils ont un bon site.
Et le site est bien fait aussi.
Et donc, on peut être libertaire à l'université?
Ah ben moi,
c'est très institutionnel et très cadré.
Si on me demande parfois, hein, puisque je travaille sur ces sujets depuis ma thèse de doctorat, en fait, si je suis anarchiste, je réponds je suis fonctionnaire de l'État. Donc ça me semble un petit peu contradictoire. Mais disons que dans ce fonctionnement, par affinité, en essayant de mettre en avant certaines valeurs contre lesquelles on va pas... avec lesquels on ne va pas transiger, on va dire, on peut peut-être, instiller quelques petites formes d'anarchisme diffus, en tout cas de valeurs solidaires, au moins en refusant certains principes qui vont contre ces valeurs, justement. Alors, dans la nouvelle université française, avec les lois d'autonomie d'université, etc., ça tend vers tout le contraire, beaucoup de concurrence... l'excellence, la gestion de projets pour avoir des financements, etc. Malgré ça, quand on fait quand même du bon travail, que ça peut être apprécié, et en tout cas, même comme ici ce colloque, financé. Donc, tout est possible.
Et donc, tu es professeur d'italien ou c'est quoi la matière exacte que tu enseignes à l'université donc de Montpellier?
Alors, mon titre, effectivement, c'est professeur en études italiennes. J'enseigne beaucoup de matières. Je fais beaucoup de traductions, je m'occupe aussi de civilisation italienne, de littérature, plutôt 19e, 21e, on va dire. On ne fait pas que de la langue pure, disons.
Voilà,
on travaille aussi, et j'essaye de travailler aussi sur des sujets qui se rattachent à mes centres d'études. Par exemple, il y a un chapitre dans l'ouvrage qui a été réalisé avec en partie des étudiants. Donc on a fait venir un écrivain, un membre d'un collectif italien qui s'appelle Vooming. On a fait venir Vooming 2 à l'université de Montpellier, et non seulement il a proposé une intervention sous la forme d'une table ronde, mais il s'est prêté aussi à l'exercice de l'entretien avec des étudiants qui voyaient un écrivain italien en vrai, et donc tout ça a été retranscrit, et finalement aussi c'était un travail collectif, puisque j'avoue je suis repassée un petit peu derrière, mais les étudiants chacun a apporté sa petite pierre. Donc voilà.
C'est un vrai livre collectif et qui montre aussi que les expériences collectives, ça ne s'imite pas à 68, 70. Parce que quand on parle de pratiques collectives et des pratiques du collectif, les gens vont vous répondre « Ouais, mais c'était les beatniks, c'était les hippies en 68. »
Peut-être. Alors c'est vrai que ça dépend de ce que chacun a vécu, a connu. Moi, par exemple, tu m'as posé la question, ça me renvoie tout de suite à mon travail de doctorat. Oui, peut-être 68, mais en fait, je pense que Fabio va pouvoir bien en parler, mais il y a des sociétés qui ont très anciennement mis en commun des choses, partagé par exemple l'espace pour aller faire paître leurs moutons. Je pense au Maroc, par exemple, où il y a des pratiques qui ont été ensuite gommées par la colonisation, mais il me semble que assez naturellement, alors là on commence à entrer dans les théories, mais l'homme a tout intérêt à être solidaire et à pratiquer de façon le solidaire. C'est ensuite les valeurs capitalistes qui font que la concurrence s'installe et qu'il faut écraser l'autre pour être meilleur. Mais je pense que toute cette vingtaine de chapitres qui décrivent chacun une expérience particulière, avec des difficultés évidemment, c'est pas simple, c'est une expérience humaine, mais je pense qu'on a plutôt toujours intérêt à partager plutôt qu'à diviser ou à être dans la concurrence.
Voilà, et donc ce livre, vous pouvez vous le procurer, je pense, soit à la librairie Virgule, bien sûr, à Longwy, ou bien en le commandant directement à l'atelier de création libertaire.
Voilà, ils ont un site, ils ont une page Facebook, je pense qu'ils répondent assez vite. S'ils ne répondent pas, vous me le dites, je vais les gronder un petit peu. Ouais. Mais vraiment, ça fonctionne bien.
Et alors d'ailleurs, on ne peut pas dire que c'est une bible, parce qu'en fait, tout projet collectif est différent. mais ça peut donner des idées et voir un peu comment ça s'est passé, les expériences positives ou négatives.
Voilà. Et alors, tu parlais de 68 tout à l'heure. Il se trouve que un morceau de la thèse que j'ai faite il y a quelques décennies sur les anarchistes au Brésil, et il y avait un morceau, donc, comme je le disais, sur cette colonie Cecilia qui a été fondée à la toute fin du 19e et qui était devenue assez célèbre parce qu'il y a eu un film en 1976, un film qui s'appelle La Cecilia, justement, de Jean-Louis Comolli, et que tous les gens de la génération 68 ou juste après connaissaient. Et donc, quand on m'a invité à quelques endroits, aussi à la radio, pour présenter l'ouvrage sur La Cecilia, eh bien, il y avait souvent des gens qui avaient vécu 68 et qui, malgré l'époque complètement différente, hein, puisque c'était presque un siècle avant, eh bien, retrouvaient des choses qu'ils avaient vécues, à peu près les mêmes difficultés qu'il fallait avoir surmontées, les mêmes écueils, on va dire, et en même temps les mêmes satisfactions. Je crois que c'est vraiment une expérience humaine, et il y a des mécanismes qui se mettent en place que maintenant on connaît mieux, mais qui se retrouvent au fil du temps. Donc je crois qu'il y a effectivement un lien, qu'il y a une sorte de redécouverte qui s'est faite.
De continuité.
Ou de continuité, est-ce qu'il y a eu des moments de rupture, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un fil qui se crée et qui remonte pas seulement à la fin du 19e, hein, qui peut remonter même... Bon, ben là, ça, c'est pas mon job, mais les gens qui travaillent sur, je sais pas, le Moyen-Âge, ou même sur peut-être la préhistoire, pourront retrouver aussi des éléments...
Ben, on va continuer à échanger sur le sujet, mais en attendant, je vous propose une petite pause musicale avec une chanson de Maxime Le Forestier, donc La Maison Bleue, mais qui est revue par Idir et qui s'appelle Tizi Ouzou. Donc un petit coucou à nos amis algériens qui en ce moment luttent pour pouvoir vivre dans un vrai pays démocratique.
Fish. gemut es mis tames ha et nur man im zu is it so so never dans ces collines s'achève.